Je voudrais commencer par remercier les organisateurs du colloque de m'avoir invité à y contribuer avec un sujet peut-être a priori aux marges de la philologie classique, même si je vais aussi parler d'oralité. Mais ce n'est pas tout à fait la même oralité que celle dont il a été question, ce qu'explique tout de suite mon sous-titre, « Deux siècles d'inscription ». Je vais m'expliquer sur ce terme d'inscription. On n'est pas du tout dans la même temporalité, on n'est pas du tout dans la même oralité. Alors, je voudrais aussi préciser que, bien que m'intéressant aux littératures indiennes et aux traditions orales populaires en Canada notamment, je ne me définis pas moi-même comme philologue, ce qui, il est peut-être bon de le rappeler, manifeste d'abord que l'usage du terme philologie, 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 philologia est aussi variable, il me semble, en Europe même, et que son extension d'ailleurs est assez mal fixée en français. Aussi, le titre de ma communication, loin d'être descriptif, est-il fortement problématique à mes yeux. Il l'est parce que l'alliance des termes philologie et oralité ne va pas de soi. De quelle philologie parle-t-on lorsqu'on aborde une tradition orale pour laquelle aucun des termes de la démarche philologique, écrit, texte, passé, n'est a priori pertinent ? Mais ce titre est aussi problématique parce que dès lors qu'on parle de tradition orale, la spécificité d'une philologie indienne pose aussi problème, particulièrement en ce qui concerne l'épopée orale où une perspective généraliste inspirée par la théorie de Milman et Parry qui a été mentionnée plus tôt et qui a été prolongée par les travaux de John Miles Foley a montré son efficacité, si bien qu'on peut trouver par exemple un volume tel que Chanting Narratives, The Living Katavachana Tradition, édité par Molly Cushon à New Delhi en 2001, qui inclut des articles sur des traditions non indiennes. Alors, ce sont tous ces problèmes et questionnements que je voudrais ici déplier et illustrer à partir de questions donc inhérentes à l'étude de l'orature. La philologie de l'épopée orale ne peut-elle exister que dans une solution de continuité avec la philologie des textes, en dépit de contenus parfois communs ? Ou peut-on penser que dans ces difficultés, ces impasses, elles donnent à voir, comme à travers une loupe, le fonctionnement de traditions et de pratiques, des traditions et des pratiques verbales en Inde, mais n'est-ce pas alors manquer la spécificité de traditions orales qui ne peuvent être simplement assimilées aux traditions d'origine orale, oral derived, si nombreuses en Inde. Alors, je ne me garderai pas bien de trancher hein, ici même, mais je voudrais donc poser quelques problèmes, de ces problèmes que pose l'approche philologique de l'épopée et en particulier de ce qu'on peut appeler la pensée textuaire. Alors, l'oralité en un sens, c'est une fabrication des philologues. Dans le domaine des littératures vernaculaires modernes liées à des performances, la critique des limites de la philologie est devenue quasi topique. J'en ai pris un exemple très très récent, un ouvrage qui a été publié en 2015, dirigé par Francesca Orsini et Catherine Butler Schofield, et qui a été donc recensé de la façon suivante, donc « A good deal of the work of literature in the North Indian vernaculars of the last decade has been, perhaps out of necessity, somewhat narrowly philological ». Donc voilà, un adverbe un petit peu étonnant, inquiétant, scandaleux peut-être. Pourquoi cette étroitesse philologique ? On sait bien pourquoi. On sait bien pourquoi, dans le cadre des performance studies, on reproche effectivement à la philologie de manquer le telling du texte. Et dans la plupart des ouvrages et articles qui s'intéressent aujourd'hui à la récitation, à la performance, on associe volontiers d'ailleurs, avec une paronomase dont on ne dispose pas en français, « tellings and texts ». Et cette association, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'elle ne relève pas d'un simple complément de compétences, c'est-à-dire que, par exemple, dans cet ouvrage, où les manuscrits jouent un rôle de premier plan dans les recherches exposées, il n'est pas question une seule fois de philologie. Le mot « philologie » n'est pas prononcé. Alors, c'est cela qui, évidemment, m'a intéressée, cette absence donc du terme, du mot de philologie, alors même qu'il y avait des manuscrits en jeu. Mais qu'en est-il quand il n'y a pas de manuscrit, précisément ? Quand il n'y a pas de manuscrit, quand l'existence d'un texte antérieurement et indépendamment de la performance est loin d'être la règle dans ce qu'on a appelé, à partir donc, du milieu du XIXe siècle, le folklore. Hein, donc un néologisme formé par Forms, bon, je pense que ceci est bien connu. C'est-à-dire que un corpus a émergé avec cette conception du folklore, un corpus a émergé et dans un contexte tout à fait particulier qui est celui de la colonisation. Tout un ensemble d'énoncés transmis exclusivement à l'oral, chansons, récits chantés, contes, proverbes, ont été mis par écrit pour la première fois dans ce contexte politique et esthétique. Ce terme de folklore est toutefois resté un emprunt en Inde jusqu'à ce que le développement du nationalisme à partir de la fin du XIXe siècle finisse par modifier le regard sur des traditions transmises en général par les plus basses castes. Et c'est quand même un élément très important, c'est ça, cette autre oralité. C'est-à-dire que ces traditions ne donnaient pas lieu à un concept séparé, elles ne donnaient pas lieu à considération de quelque façon que ce soit, puisque, je vais y revenir, la philologie n'est pas que transmission critique, elle traduit et consacre la valorisation d'une tradition. Et c'est donc au XXe siècle seulement qu'on voit apparaître dans les langues indiennes des néologismes sous forme de calques de l'anglais, Lok Sahitya en Bengali, Janapada Sahitya en Kannada. Et bien qu'en l'occurrence, les deux expressions mobilisent le terme en général retenu comme équivalent à littérature, sahitya, cette floraison lexicale dans le contexte précis de l'indépendance confirme que folklore ne véhicule qu'un faible sémantisme textuel et littéraire. En revanche, les notions de tradition, de passé, d'héritage y sont fondamentales. Donc les folkloristes ne se pensent pas philologues. La référence à la philologie est absente. J'ai donné un extrait, par exemple, de premières éditions traduction de Halla, donc par Waterfield en 1923. C'est une édition posthume qui explique qu'il ne travaille pas pour les philologues. Hein, philologer, c'est le terme qui était à ce moment-là utilisé en anglais. Et pourtant, et c'est là le point important, me semble-t-il, en dépit de cette non-utilisation du terme de la philologie, en fait, la philologie est à l'arrière-plan de l'entreprise folkloristique. Et j'ai donné donc l'autre citation, celle du fameux article de Toms, donc, qui mentionne pour la première fois le terme de folklore et qui appelle donc de ses voeux quelques grimes hein, qui accomplissent donc le travail philologique effectué par les frères Grimm. Frères Grimm, qui, auteurs de dictionnaires, d'une grammaire, de travaux sur la littérature ancienne allemande, sont effectivement dans le cadre de la philologie. Or, c'est le cas, jusqu'à un certain point du moins, de bien des Britanniques qui s'intéressaient au folklore au XIXe siècle, qui avaient reçu une formation dans les langues indiennes et en sanskrit, et qui furent parfois de véritables savants, tels John Faithful Fleet, c'est le nom donc qui est en bas de la diapositive, non, John Faithful Fleet au Karnataka, qui à sa mort a été salué bien plus pour ses travaux d'épigraphiste que pour sa remarquable connaissance du folklore Kannada. Et comme on le voit ici, donc, c'est bien en épigraphiste, en philologue, qu'il propose dans The Indian Antiquary entre 1885 et 1889 des translittérations scrupuleuses, donc j'ai repris sa façon de translittérer, hein, de ballades collectées par, donc des Lawani, hein, collectées par lui dans le nord du Karnataka. Donc on le voit commenter notamment les usages particuliers, les archaïsmes. Fleet ne partageait pas pourtant la conception romantique du folklore comme conservatoire du passé. Bien plutôt, il s'inscrit dans l'intérêt manifesté par le colonisateur après 1857 pour un folklore censé donner une idée juste des sentiments du peuple. Mais bien qu'il soit tout à fait conscient donc, hein, des enjeux d'actualité des ballades qu'il transcrit, Fleet prête assez peu d'attention au processus de telling et se focalise sur le texte qu'il produit. Ainsi, il est assez remarquable de noter que dans la deuxième occurrence, il y a donc un archaïsme, hein, l'usage du P initial, mais qui ne commente pas alors que la première occurrence donc, ne manifeste pas le même archaïsme. Donc, son travail est exceptionnel par l'effort qu'il met en œuvre pour rendre compte aussi bien de la musique, hein, il joint des partitions, que du contexte historique et sociologique, mais il vise avant tout à l'édition d'un texte exactement comme dans les autres articles du même Fleet, consacrés dans les mêmes numéros de The Indian Antiquary, aux inscriptions du Karnataka. Et donc, tout en mentionnant dans l'introduction de ces articles les circonstances de récitation de telle ou telle ballade, Fleet reste très discret sur les variantes. C'est, c'est le troisième exemple que je propose. Fleet enregistre un chant et produit un texte, saisi dans sa langue spécifique, mais détaché du présent de la performance. Alors, par les qualités mêmes de son travail de collecte, et même si nous sommes sans doute victimes d'une illusion rétrospective en lisant figé dans une bibliothèque ce qui n'était pour lui qu'une enquête à but informatif, Fleet est emblématique de ce qu'on peut appeler la philologie de l'oralité en Inde, où la coexistence d'une grande tradition savante également de transmission orale, en sanskrit et dans les langues régionales d'une part, et d'une surabondante tradition populaire vernaculaire d'autre part, entraîne une convergence des méthodes et inévitablement une hiérarchie esthétique. Que cette dernière soit dès lors conçue comme une version dégradée ou domestiquée, comme le disait Keramanujam, des œuvres canoniques, ou comme l'émanation d'un pur esprit du peuple, la tradition orale nos savantes se trouve textualisée, y compris lorsqu'elle est placée de façon théorique à la source des œuvres canoniques. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec ce qu'exposait le professeur Brockington. Dans l'introduction donc, de son livre consacré à The Epic of Palnadu, qui est un classique de la littérature folkloristique indienne, donc Roger rapporte ainsi de façon très intéressante sa quête d'un texte. Il explique qu'il a commencé à traduire un manuscrit, et puis que dès lors qu'il a entendu des performances en oral, il s'est rendu compte que son manuscrit était « not authoritative », hein, je cite, et il entreprend d'enregistrer un chanteur, mais ce chanteur ne le satisfait pas non plus, hein, parce que ce chanteur, en fait, oublie des épisodes. Et donc, pour obtenir une version complète, il va demander à un chanteur de venir chanter l'épopée en entier dans une guest house à raison de 2 sessions quotidiennes pendant 2 semaines. Et comme il l'explique, donc, à la fin, il a eu son texte, et d'ailleurs, sa connaissance préalable de la traduction a aidé le chanteur à accomplir au mieux donc, sa tâche. Alors, évidemment, ma présentation est un petit peu désagréable, parce que le travail de Roger est un modèle du genre, hein, mais on voit bien comment donc, la construction philologique d'une textualité orale, avec une notion d'autorité, la quête de la meilleure version, c'est-à-dire de la plus complète, conduit à organiser une performance artificielle, celle qui permet de produire The Epic of Palnadu. En même temps, donc, et c'est ça qui est intéressant, le texte de The Epic of Palnadu n'est qu'à moitié présent dans le livre de Roger, puisque seule une traduction avec des passages résumés est donnée. Et là est le second paradoxe de la philologie de l'épopée orale, corollaire du premier. Il n'y a pas de texte, même si un texte est à un moment advenu à l'existence. Très souvent, le texte n'existe qu'en traduction, ou plus souvent encore sous la forme du résumé. Alors, bien entendu, le résumé est très utile pour confronter des versions. Il possède un intérêt heuristique évident, mais il témoigne en même temps de la part du chercheur d'un aveu, d'un certain manque de densité textuelle qui n'est que la manifestation de tout ce qui est manqué par une conception textuaire de la performance. Et dans cette perspective où donc, il n'y a pas de texte, on peut même en arriver à ce que la tradition elle-même devienne totalement incertaine. Et j'ai pris un exemple qui est celle d'une ballade qui porte donc sur la chute de Srirangapatna en 1799, donc au moment de la mort de Tipu Sultan. Sur cette ballade, on trouve différentes informations que j'ai ici rapportées. Donc, l'Encyclopédia of the Folk Culture of Karnataka mentionne un certain John Laden, qui s'écrit L-A-D-E-N, hein, qui aurait donc collecté et publié un Srirangapatna Lawani en 1803. Dans le volume des South Indian Studies, on trouve ici une mention donc, d'un certain Leydon, qui s'écrit L-A-Y cette fois, et qui donc, aurait collecté une ballade qui n'existe plus, et dont on n'a plus que la version anglaise. Et enfin, troisième version, emprunté donc à une version récente du Gazetteer du district de Mandia. Donc cette fois-ci, Leiden, qui retrouve une orthographe L-A-D-E-N, qui aurait écrit un poème, qui a écrit un poème qui s'appelle donc The Dirgah of Tipu Sultan en anglais. C'est un poème en anglais. Donc on voit comment les choses deviennent totalement incertaines, et même le nom anglais de Leiden est en quelque sorte oralisé, puisqu'il a plusieurs graphies. On voit que l'application de la démarche philologique aux traditions verbales populaires, telle qu'elle a été mise en œuvre en Inde, a donc tendu d'une part à promouvoir de façon quelque peu essentialisante l'oralité, qui est pensée souvent comme originaire, et coupée de façon quelquefois artificielle des traditions, et notamment des traditions pouraniques, et d'autre part donc à entraîner la quête, mais par nature insatisfaisante, d'un texte dans une relative indifférence à la variabilité et à la plasticité des traditions orales. Alors cette contradiction ne relève pas évidemment de la seule approche philologique, hein, elle procède de la complexité même de l'objet, et il n'est pas rare d'ailleurs qu'un spécialiste de tradition orale commence son exposé en disant « il n'y a pas de texte », et puis à un moment il est rattrapé, il dit « et le texte hein ». Donc, on se trouve dans une véritable difficulté qui a conduit main folkloriste jusqu'à une date relativement récente à partir en quête d'un ur-texte, c'est-à-dire en général à fabriquer un texte complet à partir de versions orales. C'était le cas de ce manuscrit que je mentionnais, sur lequel a travaillé Roger. Et c'est le cas encore, par exemple, d'une tradition épique de la région de Mysore, Pereya Patanala Kalaga, qui est compilée en 1990 par Piquet Rajashekara, à partir de performances de plusieurs bardes, donc selon une méthode qui était exactement celle appliquée par Waterfield, par exemple, en 1860 pour Allah. Alors, ces procédés sont des procédés qui ont été que la philologie elle-même a mis en œuvre, et par exemple Cerchiglini a cessé plus à les repérer dans les éditions au XIXe siècle des manuscrits médiévaux, qu'il préfère d'ailleurs appeler des inscriptions médiévales, et c'est pour cela que j'ai repris ce terme dans mon titre. Inscription qui propose un texte donc inédit au sens propre, jamais vu dans la rédaction comme dans la langue. Mais ces procédés, évidemment, prennent un relief particulier dès lors qu'ils portent véritablement sur ce qu'on appelle parfois l'orature, avec un renouvellement de vocabulaire, mais qui est loin de régler tous les problèmes. Et c'est donc là-dessus que je voudrais m'étendre un petit peu. Quelles sont donc ces inscriptions ? On peut dire qu'en un sens, toutes ces inscriptions sont des artefacts, sont des produits donc, de leur étude. Et on voit de façon intéressante d'ailleurs la solidarité des deux intérêts de John Faithful Fleet que je mentionnais, épigraphiste et folkloriste. Donc ce sont non seulement des produits de la colonisation, de l'imprimerie, ceci a été bien étudié, je ne reviens pas là-dessus. J'ai essayé de montrer que c'était des produits aussi de la philologie, mais ce que je voudrais montrer, c'est qu'ils engagent des processus de dissémination et de création qui poursuivent et renouvellent les traditions. Autrement dit, et contrairement à ce qui est souvent mis en avant tant dans la philologie et la folkloristique que dans le folklore lui-même, où très souvent les bardes professent la fidélité à ce qui est transmis, en fait, les textes font sens dans un mouvement non pas de remontée aux sources, mais de descente du temps dans une adaptation renouvelée au présent. Alors, je ne vais pas développer un point que je voulais développer, qui était la question de la mise en scène de l'oralité, qu'on a évoqué tout à l'heure, et qui est très souvent le signe que précisément cette oralité est en train de disparaître. Mais je voudrais plutôt donc proposer un bref développement sur la question de la terminologie, des termes employés pour nommer ce qui est inscrit. L'épopée orale, de ce point de vue-là, est elle-même un produit de l'écrit et de la traduction. La traduction, par exemple, de Allah, donc, au XIXe siècle, est parue sous le titre « The Lay of Allah », donc avec un mot qui, évidemment, n'est pas du tout indien, « lay », et la traduction est composée en « ballad stanza », donc c'est ce quatrain de la poésie populaire anglaise, reprise d'ailleurs dans la poésie savante, si bien que Grierson identifie son style à celui donc des ballades de la frontière anglaise. On trouve par ailleurs, donc, au XIXe siècle, on a imprimé en prose au départ pour l'apprentissage linguistique des fonctionnaires coloniaux, comme ça a été montré par Stuart Blackburn, de nombreux récits populaires tamouls, parmi lesquels des versions du Mahabharata et du Ramayana. Et puis, troisième cas de figure, donc, ce récit chanté dont j'ai déjà parlé, Periya Patanala Kalaga, qui est classé par J.S. Paramashivaya, qui est un des grands folkloristes du Karnataka, parmi donc les Aitihasika Lawanigalu, les ballades historiques. Mais cette catégorie de Lawani, donc Flick traduisait par ballade, fonctionne dans son ouvrage comme une sous-catégorie de Kavya. Donc on voit toute une constellation de termes, mais de termes qui d'ailleurs en général sont traduits en anglais par épique, mais de termes qui en fait renvoient tous à un seul mot, kata en hindi, katei en tamoul, kate en kannada, qui est le déverbal de kat, c'est-à-dire le simple, la récitation, hein, la récitation, le procès de la récitation. On voit que les identifications génériques savantes accroissent encore la complexité d'un système caractérisé par une grande plasticité, qui ne relève pas simplement de la stratification et de l'accrétion, mais bien d'une mouvance, hein, pour reprendre le terme de Zumthor, ou d'une variance, pour reprendre celui de Cerchiglini, qu'il réserve cependant à la diversité des inscriptions. Car si Kate n'est pas nécessairement une épopée, l'épopée peut bien être une simple ballade. Il faut reprendre donc l'exemple de Periya Patanala Kalaga, hein, qui est, j'y reviendrai, une ballade très peu connue, beaucoup moins connue que Allah par exemple. Il existe dans la tradition orale Kannada un Lawani, donc une ballade qui s'appelle Linga Rajama ou Kodagina Linga Rajama, qui partage en fait avec la bataille de Periya Patana, c'est ainsi qu'on peut traduire Periya Patanala Kalaga, des pans entiers de récits, à commencer par les formules d'Inkibi. Ça ne paraît peut-être pas bien clairement, mais donc on a des partie entière, et puis donc tout le début, un Kodagu, Malaya, Rajake, Gali, Yedu, Endare, Beda, Ginanta, Periya, Patana. Et on trouve en fait donc des points communs, sauf que l'histoire qui est racontée est relativement différente, puisque Linga Rajama raconte une histoire où une jeune femme, en accord avec son époux, va réclamer à son frère sa part des richesses familiales. Celui-ci refuse, s'emporte, Linga Rajama s'enfuit et raconte à son époux que son frère a abusé d'elle. Furieux, le roi de Kodagu assigne un rendez-vous au roi de Mysore. Avant même que les deux armées ne se rencontrent, le roi de Kodagu est fait prisonnier. Le roi de Mysore se venge en faisant arrêter et supplicier sa sœur. C'est-à-dire que c'est une épique, comment dire en anglais, mais où il n'y a pas l'ombre d'un combat ni d'un siège. C'est un chant qui est avant tout une histoire de famille, ce qu'en anglais on appelle volontiers un social narrative, hein, qui raconte souvent donc le malheur domestique et conjugal des femmes. Or, dans une version récente de la bataille de Periya Patana, que j'ai eu l'occasion d'enregistrer en 1995 près de Mysore, qui est celle donc du chanteur Tambouri Mahadeva, tout cet ensemble de motifs est repris par lui comme étant les raisons de la bataille. Autrement dit, il déplace en quelque sorte, enfin, il déplace, c'est déjà en quelque sorte interprété, hein, mais au lieu de reprendre le motif traditionnel du conflit, un motif mythique, une naissance miraculeuse, un désir incestueux du père, donc il introduit cette revendication d'un héritage par la sœur. Alors, il y a évidemment plusieurs façons de rendre compte de cette récitation de Mahadeva, mais une hypothèse serait de l'interpréter comme un développement épique du Lawani, opéré par un récitant dit mondain, Laukika, aspirant en quelque sorte à un statut meilleur et exploitant les contiguïtés avec le récit épique dans une stratégie qui permet à la tradition orale de se poursuivre tout en s'adaptant. Ce qui me permet de faire cette hypothèse, c'est que dans un entretien, Tambouri Mahadeva opposait fermement les kate au Lawani et rejetait fortement les seconds. Or, ce terme de Lawani est un terme qui, en marathi, désigne une chanson féminine à thématique amoureuse et qui, dans le dictionnaire compilé par Kittel en 1894, a reçu une dénotation très péjorative, « an obscene kind of ballad and its rustic tune ». Autrement dit, on voit que l'édition ne se contente pas de fixer une tradition orale, elle contribue à la faire entrer dans un canon, a priori inaccessible, des traditions peu prisé. On voit hein, que la catégorisation et l'inscription entrent ainsi en interaction de façon complexe avec la vie du texte. Oui, ici, bah, je n'ai pas le temps de commenter, je peux peut-être le dire. Donc ça, ici, c'est l'édition par Paramahivaya de Periya Padalala Kalaga, où on voit le chanteur employé de façon interchangeable, donc Lawani et Kate. Hein, alors que donc, dans le chanteur, enfin, le chanteur que j'ai enregistré, au contraire, les deux termes étaient mis en opposition. Alors, quand conclure, en quelque sorte, s'il est possible de conclure, est-ce que ceci nous invite à penser une autre philologie ou un autre de la philologie, hein, je disais que je ne trancherai pas et je ne trancherai certainement pas, mais il me semble qu'on peut quand même énoncer quelques remarques à partir de ce que je viens d'exposer. On voit tout d'abord qu'au sein du réseau complexe de relations entre oralité et textualité, la philologie des traditions populaires est sans doute à envisager elle-même comme une réénonciation. Bon, je n'ai peut-être pas le temps de développer, mais on voit très souvent que les études se fondent sur, par exemple, l'étude de Alf Hiltebeitel, se fondent sur les traductions faites par Beck et Roger de Palnadou et de Elder Brothers, dont il va démontrer que ce sont deux versions d'une même histoire. Mais il travaille donc sur les traductions. On ne peut d'ailleurs ignorer de ce point de vue-là que le passage à l'écrit, hein, j'en ai déjà dit un mot, opère une classicisation des traditions et plus ou moins réussie selon les modalités de diffusion. Il est intéressant de noter que la question de la circulation des traductions et des études savantes se formule dans des termes qui conviennent aussi bien aux performances. Dans son édition posthume de la tradition de Allah, hein, par What a Film que j'ai déjà mentionné, George Grierson regrettait, c'est ce que vous pouvez lire, que la traduction partielle parue donc dans la Calcutta Review en 1875-76 ait condamné le texte à un lectorat réduit. Et on pourrait en dire autant de ces traductions dont je vous parle, donc ces traditions Canada, dont il existe des traductions, mais qui sont parues dans des revues ou seulement, hein, ou dans des ouvrages éventuellement non anglophones et qui n'ont pas permis de les faire connaître et reconnaître pleinement hors de la sphère Canada, même si les choses changent un petit peu grâce à Internet notamment. Et on peut signaler ainsi, je suis désolée, la photo est un petit peu floue, qu'on trouve en ligne, et c'est relativement nouveau, donc une traduction d'une épopée Canada, une traduction anglaise, donc d'une épopée Canada éditée par la Sahitya Academy. Mais c'est vraiment relativement nouveau. Et en revanche, donc, on voit bien comment les travaux même savants sont soumis à ces mêmes impératifs de circulation. Je reprends un autre exemple aussi assez connu, c'est le travail de Brenda Beck donc, sur l'épopée des Elder Brothers, qui a d'abord circulé sous forme de manuscrit, un manuscrit bilingue, qui a été édité donc, en 1982, c'était la traduction anglaise seulement qui a été éditée, et en 1992, sans doute parce que dans les années 90, il y a tout un mouvement d'intérêt très fort pour les épopées orales indiennes, à ce moment-là, donc, apparaît donc, le texte, et le texte tamoul et sa traduction. Alors, deuxième point, si on parle de réénonciation philologique, il convient à ce moment-là peut-être aussi de reconnaître à l'épopée elle-même une forme originale de travail philologique, au sens où la philologie, quand elle s'efforce de restituer le sens d'un texte, le fait pour un lecteur contemporain. Contrainte par les nécessités de sa perpétuation, l'épopée orale met en œuvre une élucidation continue de son sens, qui anticipe l'obscurcissement que la philologie entreprend de dissiper, en accordant d'ailleurs le plus souvent, en ce cas, un privilège à une lectio difficilior conforme à sa conception classique du texte. La performance orale, elle, ne sépare pas transmission et interprétation et intègre ainsi toujours une philologie, avec beaucoup de guillemets entre autres, invisible pour produire un énoncé sans distance, même si la langue est particulière, moderne, traduit, immédiatement compréhensible et qui est dès lors susceptible de produire une émotion, cette émotion collective que tout amateur de kata reconnaît avec dépit s'être perdu dans la transcription de la performance. Et dans cette perspective où ne se distingue pas objet commenté et commentaire, je voudrais revenir sur ce poème de Leydon que je mentionnais pour commencer, comme exemple de tradition incertaine d'un point de vue philologique, mais qui peut apparaître sous un autre jour dès lors qu'on l'observe à la lumière de cette hypothèse d'une philologie en acte du texte. Ce poème, donc, il s'appelle « The Dirge of Tipu Sultan », est présenté par Leydon comme étant « From the Camera ». Il est annoté, et on sait que Leydon a séjourné à Srirangapatna en 1805, 6 ans après la mort de Tipu, donc il est tout à fait probable qu'il ait entendu une ballade. Hein. Et c'est d'autant plus probable qu'un certain nombre d'éléments de son poème ressemblent beaucoup à des chants de lamentation qu'on peut trouver dans le Karnataka et qui ont été recueillis par Fleet. Mais on peut aussi penser que ce poème, dont la forme épouse aussi celle de la ballade anglaise, on reconnaît la ballade stanza, est moins la traduction plus ou moins libre d'une ballade Kannada qu'un texte hybride. Ce que manifeste bien le titre, qui fait référence au dirgé, hein, au dirgé de l'office des morts, un motif chrétien de la gloire éphémère, qui se trouve en quelque sorte mêlé au motif récurrent dans les traditions orales du sud de l'Inde du retrait de la faveur du dieu. Hein, c'est ce qu'on voit donc dans les deux extraits que je vous propose. Et la défaite donc du prince musulman se trouve ainsi attribuée à une armée anglaise dévote de Ranganath, auquel le temple de Srirangapatna est consacré. Donc on a ainsi un texte qui invente en quelque sorte une nécessité dont on voit en même temps qu'elle est très historicisée. Ce poème a d'ailleurs été retraduit en Kannada, et un commentateur en 1966 dit que cette traduction ne rend pas hommage à ce Indian Work in English, qui est le poème de Leydon. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que c'est une œuvre limite, hein, où la frontière entre liberté et l'idéologie du traducteur d'une part, l'inventivité populaire hindoue d'autre part, puisque Tipu est comparé à Duryodhana, sont foncièrement brouillées. C'est une œuvre évidemment liée à un contexte très précis, et dont on imagine bien pourquoi elle a disparu, hein, c'est-à-dire une œuvre qui présente ainsi en quelque sorte la défaite du prince musulman grâce aux Anglais. Pour terminer, donc, il me semble, et je rejoindrai donc des remarques qui ont été faites ce matin, il me semble que toutes ces remarques nous invitent aussi à réfléchir à cette notion de texte, à cette notion de texte qui est beaucoup plus, qu'on a tous reçu en étant formés, hein, et qui en fait est bien plus compliqué que ce qui apparaît, c'est-à-dire que c'est moins un instrument qu'un véritable problème. Et de ce point de vue-là, il me semble qu'à côté des éditions critiques du texte, d'une performance, il y a vraiment tout intérêt à essayer de rendre compte de la pluralité des performances. Et de ce point de vue-là, donc, sans aucun doute que l'informatique et Internet donnent des possibilités nouvelles. Hein, je mentionne ici le site World Oral Literature Project, hein, qui a été lancé donc en 2009. Et qui se présente comme une initiative pour documenter, to document and disseminate endangered oral literature. Il me semble que plus que la perspective de la conservation, c'est vraiment celle de la dissémination qui apparaît ici cruciale. Je ne reprendrai pas complètement à mon compte ce que dit John Miles Foley, par exemple, lorsqu'il met en ligne cet enregistrement de 1935, hein, d'une ballade enregistré donc dans les Balkans. Je ne pense pas qu'on puisse véritablement rejoindre ou participer, hein, faire partie de l'auditoire. En revanche, on se trouve dans un cas de ce qu'on pourrait appeler de nouvelles oralités, des oralités secondes. Et donc sur le site du World Oral Literature Project, on trouve donc avec une nouvelle notion, pas celle de texte, mais celle de collection, des collections de documents, films, enregistrements, audio, photos, entretien, édition, c'est un site qui comporte un certain nombre de documents relatifs à l'Inde et qui constitue un reflet assez intéressant, hein, éclaté à l'image de l'objet, mais aussi donc qui rend bien compte, hein, de cet objet-là. Dans ce site, l'inscription, l'édition tient sa partie, mais parmi d'autres, hein, comme c'était le cas, par exemple, déjà dans le travail de Philippe Lundendorf sur le Ramcharitmanas, qui avait choisi, plutôt que de retranscrire intégralement une performance, de donner plusieurs extraits de performance en les illustrant par des extraits de transcription. La philologie de l'épopée orale, donc, dont le sens ne se loge pas dans les seuls énoncés, a ainsi permis hein, de réfléchir sur la notion même de texte, qui me semble d'ailleurs entrer en relation, je termine, avec des développements récents de la théorie littéraire, par exemple la notion de transfictionnalité, hein, d'un personnage qui ainsi voyage en quelque sorte hein, d'un texte à l'autre. Mais on peut aussi se souvenir que le mot texte en français a développé à partir de son sens de passage authentique des livres saints, par opposition à la glose et à la traduction, un sens didactique et pédagogique qui dénote de façon plus ouverte le sujet d'un discours, d'une discussion, voire d'un travail, et qu'on retrouve encore aujourd'hui dans le cahier de texte des écoliers, par exemple. Voilà, donc aborder l'épopée orale indienne sous l'angle de la philologie conduit à envisager 2 siècles d'histoire du savoir, ce qui est peu évidemment au regard des traditions philologiques européennes et indiennes, mais qui constitue une histoire de transfert méthodologique passionnante, en ce que la nature même de l'objet fait osciller entre l'intégration de celui-ci à la philologie, éventuellement redéfinie, et l'invention d'autres approches fondées sur la spécificité d'une littérature en performance, fondamentalement plurielle, à l'image de la société, de caste et de genre qui la pratique. Je vous remercie.